Radio Murmure.
Le bruit de fond des campagnes.
Radio Murmure. On monte le son.
Quand on les a vus arriver, on n'a pas cru qu'ils passeraient l'hiver.
J'ai mis 5 ans pour trouver une terre. Au début, on m'a prêté un terrain.
C'est vrai que monter un projet comme ça, c'était osé, mais ça a marché.
Ça nous a un peu bousculé au début, quand ils sont arrivés. Mais c'est pas si mal qu'ils soient là.
On est 8 à habiter sur ce lieu et on a acheté ça ensemble.
C'est comme ça que tout a commencé.
Nous voici en Sud Ardèche, à 3 km du village de la Souche, juste sous le col de la Croix de Boson, à 650 mètres d'altitude au fond d'une vallée forestière. La Clémenterie, c'est un lieu de vie collectif et autogéré, réunissant une dizaine de personnes dans une logique d'économie solidaire et de prise de décision collégiale. Installé sur un hameau en cours de réhabilitation et sur 88 hectares de terre, diverses activités vivrières et artistiques se développent et s'entrecroisent. Découvrons ce lieu avec l'un de ses membres fondateurs.
Je m'appelle Isabelle Mathieu, je suis réalisatrice de documentaires. J'ai toujours rêvé de vivre à la campagne et ça fait 15 ans que j'ai la chance de vivre en milieu rural. Moi, a priori, ce qui m'attire, c'est les arbres. Donc j'ai réalisé mon rêve en vivant en milieu rural, toujours dans des cadres, on va dire, collectifs. C'était un choix de qualité de vie, aussi bien par rapport aux questions bêtes et méchantes de pollution, de stress lié aux relations sociales en ville, que je trouve assez violente, souvent. Et puis, avoir le temps aussi, le temps d'exister. Et je trouve que le temps à la campagne, il ne s'écoule pas de la même manière qu'en ville. En tout cas, je trouve un temps, a priori, beaucoup moins hystérique. Et ça me convient mieux. J'ai grandi en ville, comme beaucoup de gens, et comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à la campagne. Moi, je suis une néo-rurale. Donc voilà, donc toute ma culture de départ, c'est une culture urbaine. Il a fallu que j'apprenne à marcher à la campagne, à me déplacer dans la nature sans avoir peur, que j'apprenne à faire du feu, que j'apprenne à faire du jardin, enfin toutes les choses qu'on a le loisir d'apprendre quand on est dans un environnement qui n'est pas l'environnement familier dans lequel on a grandi, mais qui vous séduit. Donc voilà. J'ai rencontré des personnes qui vivaient dans un lieu coopératif agricole qui s'appelle Longomaille. Et ça m'était une grande chance parce qu'en fait, c'est un collectif qui a des activités agricoles, mais qui est organisé de telle manière qu'on a l'occasion d'y apprendre toutes sortes de choses sans s'en rendre compte. À Longo, en fait, j'ai eu l'opportunité de vivre à la campagne sans avoir l'inquiétude d'être toujours super efficace dans tout ce que je faisais. J'ai pu me former à plein de choses. Mais au final, je ne regrette pas d'être partie, mais tout mon cœur va à ce lieu, au sens à ce qu'est Longomaille, parce que je pense sincèrement que grâce à des lieux comme ça qui existent depuis plus de 30 ans, y a un tas de gens qui ont pu choisir leur voie, qui ont eu le courage de faire certains choix, et entre autres celui de reconstruire entièrement leur vie à la campagne, même si ce n'était pas là qu'ils avaient grandi, ou si ce n'était pas leur environnement familier. Certains l'ont fait tout seuls, d'autres comme moi l'ont fait dans un cadre collectif. Mais je pense que Longo y est pour beaucoup, enfin, que ça a impulsé, ça a donné le courage à beaucoup de gens de faire des choses ailleurs. Voilà. Donc en fait, ma première expérience de vie à la campagne, elle a été très entourée, très accompagnée, très agréable. Puis elle a été collective. Donc de fait, on va dire, ça a fini d'influencer mon point de vue sur comment vivre en milieu rural, puisque pour moi, par contre, ce qui était clair, c'est que de vivre à la campagne, ça ne voulait pas dire être isolé socialement, c'était même inimaginable. Et malheureusement, trop souvent, je trouve ça, la campagne, ça rime avec isolement social, et ça, c'était pas possible. C'est pas un rejet de la société, pour moi, d'être à la campagne, hein, soyons clairs, c'est plutôt un rejet d'un mode de vie que je trouve pas très sain. En milieu urbain. Très rapidement, tu peux être littéralement capté par le lieu où tu vis, parce qu'il est prenant. Et quand tu sais les heures de bagnole que tu as à faire pour aller voir des copains, puis c'est pas de la route facile, et puis il faut rentrer aussi après le soir chez soi, enfin tout ça, ça peut très facilement t'amener, si tu es tout seul en tout cas, à te replier dans ta maison, quoi. Donc moi, c'est pas un risque que je voulais courir. Maintenant, en termes de choix de vie, le collectif, parce que je sais pas, j'ai pas besoin de me prouver que je peux réussir toute seule. Ça n'a pas le moindre intérêt pour moi. Donc ce que je trouve plutôt intéressant, c'est comment on peut vivre en intelligence avec autrui. Ça, pour moi, c'est un vrai objectif de vie. moment donné, dans le cadre agricole, je trouvais qu'on pouvait développer des formes d'intelligence, déjà avec notre environnement naturel, mais aussi dans le cadre des relations sociales, de solidarité. Bon, ça peut paraître bateau de dire ça, mais de faire ensemble, et puis avec plein d'avantages, parce que pour moi, à un moment donné, vivre à la campagne, c'est aussi la question du vivrier. C'est-à-dire que toute ton économie domestique, elle ne repose pas uniquement sur ta capacité à ramener de l'argent pour acheter toutes les choses essentielles à ta survie. Ton économie domestique à la campagne, ça comprend aussi ta capacité à faire un potager vivrier, à avoir ton eau. Nous, ici, on a de l'eau de source. Si tu veux éventuellement à développer des énergies renouvelables, ça fait partie de nos projets. On est aussi autonome en bois de chauffage parce qu'on a toute la forêt nécessaire sur notre terrain. Donc à un moment donné, pour moi, une économie domestique, encore une fois, ça ne pouvait pas se résumer au fait de gagner de l'argent et d'être dépendant d'un système à l'intérieur duquel j'allais acheter tout ce dont j'avais besoin pour me nourrir, pour me chauffer, pour avoir de l'électricité. Pour moi, vivre à la campagne, c'était aussi quand même accéder à une autonomie où dans mon économie domestique, même si j'ai pas beaucoup d'argent, et ici le collectif est pas super riche, quoi, mais au moins on a accès à des choses essentielles à notre survie, la nourriture, le chauffage, l'eau, et puis le toit sur notre tête. Bon, et l'électricité, c'est la cerise sur le gâteau, ce qui permet d'avoir Internet, le téléphone et tout ça, quoi. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait pouvoir apprendre, sans le souci permanent de la rentabilité économique ou même de la survie. Un collectif ne peut exister que parce qu'à un moment donné, il y a une solidarité réelle, pratique, entre les gens, et que cette solidarité réelle, elle fait que tu n'as quand même pas le souci permanent du lendemain ou de ta survie individuelle. Donc ça, c'est formidable. Tant que les gens n'ont pas vécu, ils ont du mal à imaginer. Ils voient toujours le collectif sous l'aspect des contraintes. De fait, il y en a, mais comme je dis, il y a des contraintes dans tous les systèmes. Donc à un moment donné, moi, ça me paraissait des contraintes plus acceptables que celles qu'on me proposait par ailleurs dans le cadre du salariat et de la vie en milieu urbain et individuel. Et donc les contraintes collectives, je trouvais que par ailleurs, elles amenaient quand même des avantages énormes.
Traveled round through deserts on my horse, but jokes aside, I wanna come back home.
Grâce à un pote de Longo qui est berger, j'ai eu connaissance. À l'époque, on était quatre filles. On cherchait un lieu d'installation. Et par ce pote berger, parce que je trouvais aucune terre, l'accès au foncier est impossible. C'est, avec la spéculation, à l'heure actuelle, c'est la pure escroquerie. Donc moi, je ne voulais pas contribuer à cette escroquerie. D'abord, on n'avait pas un sou vaillant, il faut dire. Mais même de chercher de l'argent pour payer des terres 10 fois leur prix, c'était hors de question. Donc par un ami berger de Longo, j'ai su que ce terrain se libérait, et enfin en tout cas était à transmettre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici il y a 4 ans. Nos trois idées de départ fortes, c'était que ça allait être donc la propriété allait être collective. Pas de question qu'il y ait de la propriété individuelle sur le lieu. Donc on allait agir économiquement de manière solidaire. La deuxième chose importante, c'était l'autogestion. Ça veut dire pas de chef. Travailler au mieux pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie informelle qui se forme au sein du groupe. Donc, y travailler constamment, parce que c'est jamais évident. Et troisièmement, l'antisexisme. Ça, c'était fondamental. Je fais partie des gens qui considèrent que le sexisme existe, que notre société n'est pas juste envers les personnes de sexe féminin, et j'en fais partie. Donc, l'idée, c'était de créer un lieu en milieu rural où il soit réellement possible, en tant que femme, de réaliser des choses qui vous passionnent, sans être enfermée dans tous les préjugés qui sont liés au sexe et au fait d'être une femme. Donc bah, tu peux aussi bien faire de la tronceau que du tracteur. Puis voilà. Donc ça, c'était un des points super importants. À l'heure actuelle, on est 12. C'est moitié-moitié, puisque c'est des couples. Donc on est tant d'hommes que de femmes. Donc on va dire que le noyau dur de ce qu'on vit ici, c'est constitué autour d'un groupe de femmes, dont on fait partie évidemment, qui voulaient s'entraider, serrer les coudes et se créer des moyens ensemble pour se former, pour avoir des activités économiques. Et puis après, à ça, c'est adjoint peu à peu toutes sortes de personnes, donc y compris des hommes, puisque bon, de fait, on n'a jamais dit qu'on était non mixte et que c'était pas notre but. Hein. Donc, du coup, ça s'est élargi. Mais les hommes qui viennent sur ce lieu, en tout cas, savent qu'il est antisexiste. Ça veut dire que on demande à personne d'avoir une carte et d'être féministe, parce que ça, c'est une analyse politique et on peut très bien entendre qu'elle soit pas partagée par tout le monde. Mais en revanche, on demande aux gens qui s'impliquent dans notre lieu ou avec nous d'être conscients qu'on vit dans un monde sexiste et donc qu'on soit un homme ou une femme, que c'est bon d'en être un peu conscient pour faire attention à certaines choses qui sont pas forcément toujours correctes ou justes en termes de comportement. On est une SCI avec deux associés. Notre association, La Clémenterie, qui a une direction collégiale, qui est composée d'une part de membres bienfaiteurs, c'est 14 personnes qui ont amené des fonds pour le rachat, et d'autre part de membres actifs, qui peuvent aussi être membres bienfaiteurs. La plupart des membres actifs sont aussi membres bienfaiteurs. Pourquoi ? Parce que c'est ces deux catégories. Parce qu'en réalité, on partait du principe que c'est pas parce qu'on amène de l'argent pour la sauvegarde et le rachat de ce lieu, que ça donne obligatoirement droit à prendre des décisions pour ce lieu si on n'y vit pas et si on n'y travaille pas. Donc seuls les membres actifs de l'association ont droit de décision sur le lieu. Donc on peut être membre actif sans être membre bienfaiteur et donc avoir un plein droit de décision sur le lieu. On peut être membre bienfaiteur, comme c'est mon cas, et membre actif. Et je sais très bien que je fais partie des gens qui ont établi cette règle, que si je quitte ce lieu et que je cesse également d'y travailler, je n'aurai plus droit à la décision. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, point. Donc c'est pour pas mélanger, on va dire, la question du financement avec la question de l'usage et la question de la propriété avec la question du droit d'usage. Donc ça, c'est notre association. Et à l'heure actuelle, il y a un deuxième associé qui est un associé qui détient des parts en nom propre, qui est une des personnes qui a racheté ce lieu il y a 14 ans, qui soutient complètement ce qu'on fait ici. Donc, parce que ce lieu a été racheté par une SCI il y a 14 ans. Nous, on a racheté des parts sociales de SCI il y a un an. On s'est installé il y a 4 ans. C'était ça ou être racheté par une fondation. Moi, je fais un verger conservatoire et là, ce qui est chouette, c'est que parmi les nouveaux associés du lieu, il y a Jérémy qui s'occupe de permaculture et qui a aussi planté beaucoup de fruitiers. Il y a aussi Virginie qui s'intéresse beaucoup et qui est paysagiste à la question des arbres. Donc, par exemple, on fait du jus de pomme avec des variétés anciennes de pommes. Donc, on a tout un verger sur le lieu. Le lieu, le domaine agricole, fait 88 hectares. Il y a aussi une énorme châtaigneraie de 4 hectares et demi. On fait de la crème de châtaigne. Là, il y a un projet céréales, conservatoire de céréales qui se met en place parce qu'on a Damien et Julie qui travaillent en traction animale. On a une jument comtoise qui nous aide également à débarder les arbres en plus de travailler les sols. Il y a également deux copines qui, en plus d'être artisanes, donc de faire de la couture, font aussi traiteurs bio. Elles font des interventions sur des festivals, elles font à manger. Donc il y a aussi toute une partie très importante ici des jardins vivriers, jardins pédagogiques. On a aussi fait des jardins vivriers familiaux en accueillant des gens pour apprendre à faire du jardin et avoir des pommes de terre, des carottes, des salades cultivées par leur blanche main. Ça, c'est pour la partie, on va dire, agricole. Pour la partie artistique et culturelle, on est tous un peu artistes sur les bords. Dans le groupe, il y a... je fais les films, mais il y a des musiciens, beaucoup de musiciens. Il y a des tailleurs de pierre qui sont également sculpteurs et sculpteurs sur bois. Et on a déjà fait une résidence d'artistes sur le lieu, on en prévoit d'autres, on fait du land art. Et il y a toute une dimension artistique très importante. Culturellement, pour nous, c'est fondamental, cette forme d'expression qu'est l'art. Vivre ensemble, c'est difficile au sens où on nous apprend guère dans notre société à vivre ensemble autrement qu'en concurrence ou en rivalité. Donc être en collectif, à un moment donné, la difficulté, c'est de trouver une vraie forme d'intelligence. Donc ça suppose des gens d'être déjà d'un caractère plutôt bienveillant, confiant. Donc d'abord, pour être confiant, il vaut mieux être confiant en soi-même et ça aide à être confiant dans les autres. Ça exige aussi une certaine capacité à pas toujours tout ramener à soi. Je pense qu'effectivement, pour être bien dans un collectif, il faut se réaliser un peu soi-même et se connaître bien, en tout cas. Et ça, je pense que c'est une des contraintes que les gens ont beaucoup de mal à imaginer au départ. Mais je me rends compte que les gens qui fonctionnent le mieux en collectif sont ceux qui se connaissent le mieux, on va dire, avec leurs limites, qui n'en ont pas honte. C'est pas une forme, on va dire, de vie qui soit facile d'accès. Parce que notre culture s'est beaucoup éloignée de ça. Au départ, c'est à la portée de personne dans l'absolu de vivre en collectif. Ça, en tant qu'occidentaux, en tout cas, je pense qu'on apprend à le faire pas à pas, en expérimentant. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule parce que c'est pas facile. Enfin, on connaît toute l'histoire des communautés qui se sont créées dans les années 70, dont beaucoup ont disparu. Moi, je pense que c'est un apprentissage de vie. It's time made me on the sunny road. Là où je suis très contente, c'est au niveau de tout le réseau d'entraide paysanne. Tous les gens installés en agriculture, là, entre les deux vallées, on peut dire que globalement, la majorité nous soutiennent. Après, au niveau des élus, les élus locaux, on ne peut pas faire l'unanimité avec un projet comme ici, ça va trop contre un tas de préjugés. Donc bon, moi, j'attends pas plus, par exemple, de leur part, quoi. Je me dis, quand ça marche bien, tant mieux, et puis sinon, tant pis. Et au niveau de la région, bah, comme il y a des côtés super innovants dans notre projet, bah, la région Rhône-Alpes, elle est plutôt, jusqu'à présent, plutôt ouverte et elle soutient plutôt, surtout qu'on est quand même sur de la création d'activités économiques avec des gens qui sont plutôt à la marge, jugés du moins socialement à la marge. Donc du coup, la région Rhône-Alpes, elle nous soutient bien. Et elle nous a bien soutenus quoi, jusqu'à présent. Et on a aussi eu le soutien de la Fondation de France par rapport au projet d'habitat groupé sur le lieu et la reconstruction du hameau. Donc on va dire que du point de vue, on va dire, des institutions éloignées, enfin, qui ne sont pas locales, qui sont un peu éloignées, le côté innovant du projet fait qu'on est plutôt soutenu. Pour moi, déjà, la course à la rentabilité, quand on fait de l'agriculture en moyenne montagne, ça veut strictement rien dire. Enfin, puis déjà, l'agriculture tout court n'est pas rentable, elle est subventionnée. Enfin, je veux dire, on le sait très bien. L'agriculture n'existe que parce qu'elle existe sous perfusion. Jusqu'au jour où des technocrates estimeront que l'activité agricole n'a plus aucun intérêt, et auquel cas, si cette perfusion est coupée, ben, y a plein de fermes qui vont disparaître, de mon point de vue, c'est mon analyse. Donc à un moment donné, non, on ne cherche pas la rentabilité parce que ce serait prendre une mauvaise voie. Je ne parle même pas là de valeur éthique, hein. Je parle juste, ce serait courir après une chimère, une illusion. Donc pour moi, la viabilité économique, encore une fois, c'est la paysannerie. C'est une agriculture qui prend en compte la dimension vivrière. Ça veut dire pour moi, la seule vie, les seules activités économiques agricoles qui peuvent avoir un avenir sont celles qui sont paysannes. C'est-à-dire où les personnes qui ont une activité agricole ont aussi des activités vivrières et donc ont une partie de production qui a pour but de rejoindre le réseau commercial et une partie de leur production qui va surtout leur permettre de vivre tout court, en tant que famille ou en tant que groupe. Voilà. Et ça, je pense, moi j'appelle ça de la viabilité économique, mais surtout j'appelle ça être pragmatique. L'hiérarchie informelle, bah, c'est celle que te donne simplement, bah, là c'est mon cas par exemple, le fait d'être une des personnes qui est à l'origine de ce lieu, ça peut te créer une légitimité au regard des autres, qui est très difficile à casser cette légitimité, donc ça ne peut dépendre dans un premier temps que de toi. Si tu crées ou fondes quelque chose, il faut se dire que tu vas être là. Première personne à devoir œuvrer à casser l'image que ça donne de toi, pour qu'à un moment donné, tes décisions ne paraissent pas plus légitimes aux yeux des autres que celles de n'importe quelle personne qui vient de débarquer. Enfin, comme je dis, c'est au moment de l'arrivée qu'il faut se poser la question du départ. C'est au moment où tu arrives dans une histoire où tu es plein d'enthousiasme, mais malheureusement pas toujours de lucidité, qu'il faut préparer l'éventualité d'un départ ou d'un retrait. Parce que c'est pas au moment où la vie change que tu dois te mettre à organiser ton départ. Ça, c'est bidon. Parce que s'il y a des conflits ou s'il y a de la tristesse, enfin, toutes sortes de choses qui font qu'on n'a pas toujours envie de changer, ce sera trop tard, ce sera pas le bon moment. Donc pour moi, chaque personne qui réalise quelque chose sur ce lieu doit aussi penser en termes de responsabilité collective et on doit penser avec elle comment on fait le jour où tu t'en vas.
Radio Murmure, une émission réalisée par Elsa Decour pour Radio Sainte-Afrique, à l'initiative du réseau des CREFAD, financée par la Datar Massif Central et les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes et Bourgogne.